Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet, l'homme qui télescope les images pour en extraire la substantifique moelle, il a regardé le débat de la primaire écolo. Notre invité, c'est la comédienne Zabou Breitman pour son seul en scène Dorothy. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui lui est arrivé avant la célébrité. En fin d'émission, Marc-Antoine Lebray dans ses œuvres. Bonjour Guillaume Benesch.
Bonjour Philippe.
Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Bruno, tous les jours vous décortiquez ici les mécanismes médiatiques et hier midi vous avez regardé sur France Info, canal 27, le premier débat télévisé entre les candidats à la primaire écologiste.
Oui, et je pense que mieux que moi, Philippe, celle qui a parfaitement résumé ce rendez-vous, c'est l'une de celles qui y a participé, Sandrine Rousseau, qui, dès le début du programme, a exprimé cette splendide mise en garde.
Oui, je sais, ça va pas être agréable.
À moins que ce ne soit finalement le chef du service politique de France Info, Cyril Graziani, qui, dans le débriefing de l'émission, l'a synthétisé comme ceci.
Alors un débat très policé, intéressant sur le fond, évidemment, mais peut-être sur la forme, on s'attendait à un peu plus de joute entre les candidats.
Voilà, enthousiasme quand tu nous tiens. Alors pourquoi ce grand raout politique, ce premier grand raout politique de la saison, a-t-il été décevant? Eh bien, probablement pour deux raisons que je vais tenter de vous expliquer ici. La première, c'est parce que la promesse qui nous a pourtant été faite d'entrée de jeu...
Les cinq candidats de la primaire écologiste qui vont débattre pour la première fois ensemble.
Celle d'assister à un débat ensemble n'a à aucun moment été tenue. Et si elle ne l'a pas été, c'est parce que les contraintes liées à cet exercice médiatique extrêmement codifié l'ont rendu strictement impossible. Alors, la principale de ces contraintes, c'est le nombre des participants. Hier, ils étaient cinq, et sauf à vouloir autoriser la cacophonie la plus totale, à la télévision, il est assez difficile de faire débattre plus de deux personnes. Et puis, l'autre grande difficulté, eh bien, elle porte un nom. Égalité du temps de parole. Les candidats étant chronométrés, à la seconde près, celui qui a la charge de mener les débats est bien souvent relégué au rang de simple horloge parlante.
Delphine Bateau, 8 minutes 15. Jean-Marc Governatori, 7 minutes 08. Vous êtes un peu en retard. Yves Piolle, 7:32. Vous êtes aussi un peu en retard. Yannick Jadot, vous êtes en avance.
Pas d'opposition entre les candidats. Une litanie de constats sur la situation telle qu'elle est. Mais à aucun moment sur ce que les candidats voudraient qu'elle soit.
L'école, l'hôpital, le commissariat, le tribunal sont à l'os. Nous avons des sous-effectifs, nous avons une précarisation de nos services publics.
Vous aviez déjà là tous les ingrédients pour assister à un pensum absolu. Et si vous ajoutez à cela que Delphine Bateau n'a manifestement pas vraiment bien saisi l'enjeu principal de la primaire...
Le choix de la primaire n'est pas une question de personne ou d'individu.
Ah bon, bah première nouvelle. Vous comprendrez oui. Qu'on était assez mal embarqué. Mais la deuxième raison à cette déception, eh bien, elle tient au profil hautement atypique de l'un de ses participants.
Alors le sort a désigné Jean-Marc Governatori pour répondre à la première question.
Jean-Marc Governatori, un olibrius totalement baroque qui s'est présenté comme ceci.
Je participe à cette primaire parce que j'ai le meilleur CV politique de France.
Bon.
C'est quoi le meilleur CV politique de France?
Eh ben son CV, je vous le résume rapidement. Il a commencé sa carrière politique à l'UDF, tenté de se présenter deux fois à l'élection présidentielle en 2012 et en 2007. 2007, l'année où il avait juré disposer de 800 parrainages et où, manque de bol, il n'en a finalement déposé que 11. Candidat devenu divers droite aux législatives en PACA, il a en 2002 terminé dernier avec une seule voix, la sienne, en tout cas on espère. Il a également financé à hauteur de 300 000 euros la liste Alliance Jaune menée par un certain Francis Lalanne et effectué une grève de la faim devant le siège du CSA parce qu'il estimait qu'il n'avait pas suffisamment accès aux médias. Voilà, c'est donc cet homme-là au profil politique dont vous admirerez tous la constance qui a lui aussi participé au débat avec une proposition phare.
Moi, président, je ferai nommer par les trois assemblées un groupe de trois premiers ministres.
Alors voilà, le côté clownesque de sa candidature et le fait qu'il soit traité à égalité stricte avec les quatre autres impétrants tire finalement tout le monde vers le bas et c'est, je trouve, infiniment dommageable. On lui laissera néanmoins le mot de la fin.
C'est incroyable d'être aussi mauvais et aussi incompétent.
Et on souhaite bien du plaisir, bien sûr, à LCI et Mediapart qui organiseront courageusement, mercredi et vendredi, les deux prochains débats en vue d'une primaire à laquelle ne sont pour l'heure inscrits, c'est étrange, seulement 35 000 votants.
Ils en attendaient entre 600 000 et 1 million. Merci beaucoup Bruno Donnet. Guillaume Benet, je vais saluer votre indispensable aujourd'hui aux alentours de 10h30. Ce sera quoi ?
On va parler d'un jeune rappeur de 22 ans qui s'inspire de la musique classique et de ses ambiances méditerranéennes pour pouvoir composer.
Margot Barallon qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Votre indispensable Margot.
Alors moi c'est une série qui sort demain sur OCS. Ça s'appelle L'Opéra et comme son nom l'indique, on va partir à l'Opéra de Paris.
Dans un instant, c'est Zabou Redman qui sera avec nous pour parler de son seul en scène Dorothy, mais d'abord musique avec The Kid Laroi et Justin Bieber sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that. Your touch, you're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.
Stay, c'était Kid Laroi et Justin Bieber sur Europe 1. J'étais déjà en train de parler.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
J'étais déjà en train de parler, disais-je, avec notre invité Zabou Bretman. Bonjour.
Bonjour, monsieur Philippe Vandel.
Vous êtes comédienne, la crise, cuisine et dépendance, mais réalisatrice. Je pense notamment au film Se souvenir des belles choses, pardon. Trois Césars. Non, pas des bonnes choses. Pas des bonnes choses.
C'est une sorte de Top Chef, mais dramatique.
On vous avait reçu en mars pour la série TF1 Un homme d'honneur avec Cadmera et Gérard Depardieu, mais là votre actualité c'est Dorothy, un seul en scène, spectacle joué écrit par vous au théâtre de la Porte Saint-Martin, dans lequel vous faites également la mise en scène, l'éclairage, peut-être même aussi les costumes. Mais avant qu'on en parle, qui est cette Dorothy?
Alors Dorothy, donc c'est un spectacle oui, que j'ai écrit, mais il y a évidemment à partir de non seulement sa vie, mais évidemment ses écrits. Elle écrivait beaucoup de nouvelles dans le New Yorker. C'était vraiment une habituée du New Yorker. Elle était aussi critique théâtrale. Elle avait la dent dure.
Et on est dans les années 20-30.
Absolument. Ah ben là, en fait, elle a contribué à l'élaboration du premier New Yorker, quand même, en 1925. Et elle a travaillé jusqu'à la fin au New Yorker. Elle était donc critique théâtrale, oui, la dent dure. Et elle avait le verbe haut. Elle était très rapide, surtout. On l'appelait la futée. Elle était rapide, elle était cinglante, elle avait un humour dévastateur, mais dévastateur. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est avec cette immense intelligence, cette immense culture, elle était extrêmement libre. Il n'y avait pas de dogme, il n'y avait pas... Non. Alors, elle défendait tout ce qu'on doit défendre, mais par une morale profonde, pas par une posture.
Dans le texte, vous dites, elle se battait contre la misogynie, mais je vous laisse terminer.
Mais elle détestait les féministes.
Voilà. Et elle luttait contre l'homophobie.
Mais disait de son mari qu'il était pédé comme un bouc.
Et alors, elle a également, j'ignorais son existence, et ça m'a passionné, elle est aussi à l'origine de la mise en place du 18e amendement de la Constitution américaine et du 19e. Racontez de quoi il s'agit.
Alors, le 18e, c'est la prohibition. Le 18e amendement, c'est la prohibition qui va avoir lieu en 1919. Et
le 19e, c'est le vote des femmes.
Le 19e, qui est quelques temps plus tard, c'est le vote des femmes. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faut venir voir le spectacle.
Alors,
mais ces deux événements sont liés. Alors, il n'y a pas que les Français qui ne sont pas au courant de ça, mais les Américains non plus ne sont pas au courant de ça.
Vous allez nous dire le rapport entre la place des femmes et la prohibition et l'alcool. Moi, je connais le nom de Dorothy Parker, mais je veux dire, je pensais que c'était quelqu'un de contemporain, parce que c'est un morceau que j'adore dans l'album Prince, Sign of the Times, The Ballad of Dorothy Parker.
Dorothy was a waitress on the promenade. She worked a night shift. Dishwater blonde, tall and fine. She got a lot of tips. Well, earlier.
Voilà, c'est elle, Dorothy Parker. Le personnage est posé. Vous avez déjà joué ce spectacle au Festival d'Avignon cet été, Zabou Breitman. Comment se déroule le spectacle? Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, on pourrait le comparer, si on voulait, à une image mentale un peu, voilà, un peu bizarre, à un entonnoir, c'est-à-dire qu'il démarre très large.
Je m'attendais à tout sauf à ça.
Non, pas sur ma tête, ouais. Ça pourrait, ouais. Hein, parce que bon. Mais c'est un entonnoir dans la mesure où, en fait, un entonnoir à l'envers. Ouais. Voilà, un entonnoir quand vous versez l'eau dedans, ou l'huile, ou je ne sais quoi. Ça va devenir très compliqué, ouais. Personne ne va rien comprendre. Mais c'est quoi ce spectacle avec un entonnoir?
C'est ce que j'étais en train de me dire.
C'est quoi le spectacle de Dorothy Parker avec un entonnoir? Je ne comprends rien. En fait, ça démarre large, c'est-à-dire que je dis large, c'est-à-dire que c'est pas de spectacle, il y a pas de spectacle. Ça démarre, il y a pas de spectacle, il y a rien. La lumière est presque celle de la lumière de ce qu'on appelle de service, c'est-à-dire que la non-lumière. Il y a la salle éclairée, la scène éclairée normalement. Je parle éventuellement au public. Je finis la mise en place, qui n'est pas terminée. Je la finis réellement. Je finis de régler quelques projecteurs, car la régie lumière son est faite sur scène et en fait, le spectacle démarre, on ne sait pas que ça a démarré. Voilà, ça démarre et ça démarre en plein milieu de quelque chose qui ne ressemble pas à un spectacle. Il n'y a pas le « hop, c'est maintenant ». D'accord ? Et petit à petit, on rentre, on va entrer dans le spectacle parce que je vais baisser la lumière, évidemment, du public pour qu'il voit mieux. Et je vais reconstruire petit à petit ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire que je ne vais plus parler au public, je vais faire comme si je ne savais pas que le public regardait. Pour interpréter ces nouvelles de Dorothy Parker qui sont sorties des New Yorkers, mais j'ai uniquement pris la partie d'elle quand elle écrit dans les années 20 jusqu'aux années 30. Après, c'est quelqu'un qui va devenir très sombre. Elle l'est déjà, hein, est totalement dépressive, très alcoolique. Et l'alcool va la détruire petit à petit. Mais là, elle a encore l'énergie de la jeunesse qui fait qu'elle a toujours cet humour et cette drôlerie.
Ça va être dur à dire en une minute, mais vous racontez également le destin rocambolesque de ses cendres.
Mais oui, parce qu'en fait, encore une fois, dans le New Yorker, c'est presque un voyage dans le New Yorker aussi, cette histoire, de septembre 2020, donc il y a très très peu de temps, une journaliste a relaté le parcours fou des cendres de Dorothy Parker, qui est, au fond, son histoire à elle, c'est-à-dire une sorte de... C'est comme si elle mourait jamais, quoi. C'est comme si ça ne s'arrêtait pas.
L'urne a été déplacée, elle s'est retrouvée au fond d'un parking, puis dans un bureau, puis n'importe où.
Et puis n'importe où. Voilà. Et puis jusqu'à ce que quelqu'un s'en occupe. Ouais.
Juste en un mot, épitaphe géniale sur l'urne sur laquelle il y a ses cendres.
Donc, sa date de naissance, 1893-1967. Excuse my dust.
Désolé pour la poussière.
Voilà.
Zabou Breitman avec nous, on parle de Dorothy, Culture Média continue. Il va y avoir le portrait préfème de Zabou Breitman, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Zabou Breitman et je salue Lisa Marie Marquez, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Lisa Marie, vous êtes avec nous pour faire le portrait de notre invité, un portrait inédit, c'est le portrait de l'invité avant qu'il soit connu, avant qu'il soit célèbre.
Et oui, bonjour Zabou Breitman.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, metteuse en scène, scénariste. Vous avez obtenu 4 Molières et un César. Mais comment en êtes-vous arrivée là, Zabou Breitman? On va revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes née et vous avez grandi à Paris, fille unique de parents artistes. La comédienne québécoise Céline Léger et le scénariste et comédien Jean-Claude Deré. Enfant, vous grandissez sur les plateaux. Celui de la série télé Thierry Lafronde, créée par votre père. À seulement 6 ans, vous apparaissez à la télévision pour la toute première fois. À 4 ans même, vous me précisez, 4 ans. Une séquence qu'on a déjà entendue, mais dont on ne va pas se priver parce que c'est beaucoup trop mignon.
C'est toi qui es en ville ?
Non. Thierry Lafronde.
Un canard.
Et toi, comment tu t'appelles ?
Bah, Isabelle, tiens.
Tu t'appelles Isabelle ?
Ben oui. Je te connais bien.
Ah oui ?
Ah oui. Je te connais bien.
Je ris parce que, en même temps, si vous pouvez nous voir sur europe.fr, Zabou faisait le karaoké de cette
de
scène,
voix.
Hein, de votre voix, la bouche, tout y était. Voix de canard. C'est vous qui l'avez dit, hein,
ouais,
c'est pas
moi.
C'est pas moi. Je me serais pas permis.
Zabou, Isabelle, de votre prénom, vous êtes une enfant sage et vous adorez l'école, mais aussi écrire, dessiner et faire de la pâte à modeler. Des rituels marquent votre enfance. Les déjeuners à la brasserie Zéhière dans le 14e arrondissement de Paris avec vos grands-parents. Et à la maison, ce que vous aimez faire, c'est aller sous le piano pour écouter votre père jouer du Chopin.
Ça met bien l'ambiance, un nocturne de Chopin à 10h23.
Mais c'est tellement beau, ça met toujours l'ambiance.
T'as vu comment elle m'a ramassé ? Lisa Marie.
Zabou, à l'école, vous travaillez bien, vous êtes bon élève. Vous voulez d'abord devenir prof d'anglais. Vous ne vous destinez pas à être une artiste comme vos parents qui vous transmettent le sens du travail et de la liberté. En mai 68, vous avez 9 ans, vous portez une casquette Mao à la Sorbonne et vous tombez amoureuse de l'un des membres du comité Gavroche révolutionnaire qui, des années plus tard, chantera ça.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts.
Moi, j'avais avoir 7-8 ans.
7-8 ans en 68.
Et c'était Renaud, voilà.
Ouais.
Et c'était Renaud.
Ça, on a compris, c'est Renaud.
Et qu'est-ce que je l'aimais. Il était beau. Et puis, brillant, quoi.
Et vous êtes resté en contact ou c'était juste la petite fille qu'il admirait comme ça et ensuite il a disparu
Non, il a disparu de ma vie. Mais il ne sait même pas. Je pense qu'il a pas vraiment réalisé que. Non, j'étais une espèce de petite gamine en salopette, voilà, émerveillée par lui, quoi.
Lisa Marie.
Au lycée, Zabou, vous vous ennuyez lors des dissertations. Un jour, le sujet, c'est partir, c'est mourir un peu. Ça ne vous plaît pas. À la fin du devoir, vous écrivez une histoire drôle sur le Moyen-Âge. Est-ce que vous vous souvenez ?
Très bien, je m'en souviens très bien.
Qu'est-ce que vous avez écrit ?
Mais ce que j'aimais, je jouais beaucoup avec l'album de la comtesse du Canard enchaîné.
Les contrepétries.
Et comme on adorait ça, j'avais écrit une petite histoire et ça se terminait par martyr, c'est pourrir un peu.
C'est vachement bien.
Comment ?
C'est vraiment formidable. Je faisais un compliment.
D'abord, j'avais peur qu'ils me disent non, c'est pas bien.
Non, c'est vraiment bien.
Après votre bac littéraire, vous envisagez de devenir journaliste, mais vous étudiez finalement la réalisation de cinéma et de télévision et vous prenez des cours de théâtre au cours Simon. Et pour payer vos études, vous cherchez un petit boulot. Vous passez alors une audition pour l'émission destinée aux enfants Récréa 2 et vous êtes prise.
Bienvenue à Récréa 2 avec Zabou cette semaine.
Vous travaillez avec Dorothée et vous adoptez votre surnom Zabou parce qu'il y a une autre Isabelle dans l'émission. Votre collègue Jackie de Récréa 2 vous présente Ramon Pipin du groupe Odeur. C'est lui qui vous incite à aller passer l'audition du film Elle voit des nains partout et vous êtes retenu pour interpréter Blanche-Neige.
Oh, merci Mélusine. C'est exactement ce que je voulais. My name is Neige. J'y parle en anglais.
L'année suivante, vous jouez dans La vie à deux, un recueil de nouvelles de Dorothy Parker, adapté par Agnès de Sacy.
Aha.
Le grand metteur en scène de théâtre Roger Planchon vous découvre sur scène et il vous choisit pour interpréter Angélique dans Georges Dandin au TNP, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Puis, en tournée, vous prenez goût à ce métier de comédienne et à tout l'univers qui l'entoure. Zabou tout court deviendra Zabou Bretman. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa
Marie. Merci, c'est super. Tout est bien.
Et alors, Dorothy Parker, donc ça remonte à loin.
Dorothy Parker, ça me...
Ce choix de ce seul en scène Dorothy.
Oui, oui, absolument.
Ça remonte à Planchon.
Voilà, juste avant, effectivement, j'avais joué ce montage de texte de Dorothy Parker qui était ponctué par ce fameux coup de téléphone qui est une des grandes scénettes, on va dire, une grande nouvelle de Dorothy Parker. Le coup de téléphone, qui est cette femme qui attend ce coup de téléphone qui ne vient pas et qui clôt mon spectacle. Et ça a été très bizarre, tellement d'années plus tard, de reprendre cette même scène.
Absolument incroyable.
Incroyable. C'est
dont je ne vais pas parler ici parce qu'il ne faut pas spoiler ce qui se passe, mais texte absolument incroyable. Lisa Marie parlait de votre maman. Vous avez dit à La Provence cet été que Dorothy était un spectacle à votre mère. Oui. Dans quelle mesure c'est un hommage à votre maman et à quel titre ?
Parce que je pense que je n'ai pas tellement compris à quel point une femme ne peut pas être définie par sa fonction. Et c'était sa fonction de mère pour moi qui la définissait. Et voilà. Et comme si j'avais pas compris qu'une femme, c'est bien autre chose que ça, et qu'une femme n'est pas obligée d'être une mère.
C'était pas qu'une mère, votre maman. C'était une comédienne.
Oui,
on la connaît
mais
comme
ce que je veux dire, c'est que oui, bien entendu. Mais moi, dans mon rapport avec elle, j'ai compris que j'avais trop mis sur elle qu'elle était une mère. Mais c'était d'abord et avant tout une femme. Et encore une fois, Dorothy Parker n'a pas eu d'enfant. Ne souhaitait pas avoir d'enfant. Et je ne pense pas que ma mère, vraiment, si on lui avait demandé son avis, si elle avait pu choisir, je ne suis pas certaine qu'elle aurait eu des enfants.
Vous lui avez déjà posé la question ?
Elle m'a un petit peu dit, quand même. Elle a eu le temps de me le dire, oui. Mais mais c'est une chose qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter.
Il n'y a pas de divan, on est en studio. Lisa Marie Marquez, je vous dis merci. Zabou Bretman, vous restez avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne et autrice Zabou Bretman, Dorothy, c'est un seul en scène qui va démarrer, je crois que c'est à partir du 8 au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est un spectacle autour de Dorothy Parker, ce personnage fantasque et absolument passionnant que vous nous avez décrit. Il y a encore beaucoup de choses à dire. La première nouvelle est assez incroyable, elle s'appelle « Dernier été », je ne veux pas la spoiler, mais je découvre avec vous que le terme de prohibition est devenu à l'époque, on est dans les années 20 ou 10 ou 30, la prohibition est devenue le synonyme de l'émancipation des femmes aux États-Unis. Quel rapport entre la prohibition, l'interdiction de la vente d'alcool et l'émancipation des femmes ?
Elles se sont mises depuis la fin du 19e, elles ont manifesté plusieurs fois parce que les hommes buvaient énormément et que la société américaine s'en trouvait un petit peu affaiblie, d'après elles. Et puis, les femmes ne travaillant pas, c'est elles qui devaient gérer l'ivrognerie des hommes qui allaient picoler le samedi, qui les tabassaient. Voilà. Donc, elles manifestent de plus en plus. Et dans les années 1918, c'est vraiment quotidien. Et on va, pour aller vite, elles vont se dire, mais on commence à les écouter simplement parce qu'elles manifestent contre l'alcool et pour la prohibition, pour qu'on arrête la vente d'alcool. Et comme on les écoute, elles se disent, on peut demander aussi le vote en même temps. Enfin, elles s'aperçoivent qu'elles ont voix au chapitre, en fait.
Et qu'elles ont un pouvoir.
Elles sont des citoyens à part entière.
Quand bien même on est revenu sur la prohibition, elles s'aperçoivent que cette première victoire peut conduire à d'autres victoires et à
d'autres
combats.
Absolument, c'est ça. Et que les deux soient liés. Bon, j'ai lu beaucoup de choses et puis j'ai vu ce documentaire incroyable sur la prohibition aux États-Unis. Et en voyant ce documentaire, je m'aperçois que oui, c'est lié. Et que 18e et 19e amendement sont l'un à côté de l'autre parce que la prohibition et le vote des femmes, c'était au même moment, c'était la même chose. Mais ces femmes qui ont admis qu'elles s'étaient trompées, c'est quand même incroyable, sont les mêmes, nommément les mêmes, qui ont demandé l'abrogation de la prohibition en 1933. Ce n'est pas les hommes qui disent « we want beer », on voit tous ces trucs-là. Ouais. Non, ce sont elles, parce qu'elles sont rentrées en politique entre-temps, et elles disent « c'est une super mauvaise idée ».«
We want beer », nous voulons de la bière. J'ai découvert également, grâce à vous, qu'en 1918, Dorothy a 25 ans, il y a une pandémie de grippe espagnole qui fait des ravages, entre 30 et 50 millions de morts dans le monde, et on voit... Quand on voit les images de l'époque, y a un parallèle qui frappe avec aujourd'hui.
Oui, oui, heureusement pas le même nombre de morts. Mais oui, il y a un parallèle qui frappe, c'est-à-dire qu'il y a tous des gens masqués qui se promènent dans la rue. Quand on regarde les photos, c'est très impressionnant. Ce sont les mêmes petits masques pointus, pas exactement les mêmes, on n'a pas... Voilà. Mais ceux qui sont un peu pointus comme ça, il y a des trucs un peu fantaisistes aussi d'ailleurs. Mmh. Mais c'est assez étonnant, c'est assez fou, c'est-à-dire ça peut-être ça rend un peu... Ça remet un peu d'humilité dans tout ça, c'est-à-dire que faut attendre que ça passe.
On attend que ça passe, les fêtes reviennent. Vous savez ce qu'est une release party ou pas du tout ?
Release Party, bah c'est bah, comme son nom l'indique, non?
Oui, mais il y a des gens qui ne parlent pas anglais.
Oh là là, vous êtes un petit peu énervé.
C'est la fête de sortie d'un album, je ne suis absolument pas énervé. Je suis ravi de saluer Guillaume Bénèche. Bonjour Guillaume.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Parce que on vous êtes allé à une release party, j'avais ça dans mon texte, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui ne savent pas.
Absolument, et c'est pour ça que je vais préciser une fête de sortie, en effet, d'un album. Et on m'a entraîné là-bas, et c'était... Ouais. Étonnant, imaginez 500 personnes sur un toit parisien qui se trémoussent, crient, hurlent des paroles qu'elles semblent connaître aussi bien que vous. D'ailleurs, Philippe, vous connaissez Gérard Manset.
Ouais.
Autant vous dire que ma réaction a été assez directe. Qui est donc cet artiste que tout le monde semble connaître, sauf moi? Eh bien, il s'appelle Alfred.
Comme le majordome de Batman?
Comme le majordome de Batman, mais lui a un courage encore plus fou que des dédains super-héros. Il mélange sa culture méditerranéenne à la musique classique et au rap. Des inspirations qui viennent tout droit de sa famille à la maison. On écoute aussi bien Michel Berger que Paco de Lucia. Et bien sûr, de la musique classique, comme pour vous, Zabou Bretman. Alfred s'entiche de Chopin, un premier amour qui lui donnera envie de se mettre au clavier jour et nuit. Et puis, des découvertes. À 14-15 ans, et qui bouleversent littéralement sa mélomanie, le hip-hop américain, le R&B, et puis le rap français avec le plus grand groupe des années 2010. Section d'assaut, ma génération, Philippe. Un vrai bouleversement, oui, parce que Alfred, bah oui, il y a un vrai changement entre Chopin et Section d'assaut. Mais n'empêche qu'il se met à faire ce que font tous les mecs qui adorent le rap. Il kick avec ses potes, d'abord pour rire, et puis il écrit des textes, et bien sûr, se met à faire du piano-voix. Et quelques années plus tard, le voilà qui arrive dans le game. Deux premiers singles, écrits pendant ses cours à la Sorbonne en cachette, qui marchent d'ailleurs pas trop mal. Mais surtout des maquettes qu'il produit avec son meilleur pote et futur manager, Eli.
Et il va avoir un super fan dont il était super fan.
Et pas n'importe qui, puisqu'on vient de l'entendre, l'un des membres de Section d'Assaut qui a donné envie à Alfred de faire du rap, Barack Adama. Il fait écouter les prods d'Alfred qu'il a adoré à un certain homme, un illustre de la musique, Pascal Nègre, ancien patron d'Universal, qui est désormais à la tête de son propre label.
Et qui a une émission sur RFM.
Absolument, et là... Coup de cœur, bam, deux albums de signés, et en juillet, ce son qui sort et qui fait un carton.
Foule dans la coccinelle, je pense à qu'est-ce qu'elle est belle, mais je suis pas très fidèle, même si je suis fou d'elle. Pas là si t'as besoin d'aide, je peux pas me gérer moi-même, pour ça je te fais de la peine.
J'y repense, c'est le titre de ce son qui le fait connaître grâce à des amis qui le font passer en soirée, et je pense que vous avez deviné pourquoi. On y retrouve l'énergie du rap marseillais actuel, comme Jules par exemple ou Born Organisé, et les musiques d'Alfred sont particulièrement dansantes, mais pas que, parce que comme je vous le disais, Alfred, c'est un mélange surprenant d'inspiration.
Je voudrais courir après toi, mais je cours après le temps. Est-ce que tu te rappelles? On se disait quand on sera grand, là on est grand, c'est plus pareil. Est-ce que tu te rappelles?
C'est pas avec ce titre que les gens sont déhanchés au bout de 800 bières. Ah, voilà.
Quand je vous disais que c'était étonnant. À 22 ans, il vient donc tout juste de sortir son premier album, Le Temps qui passe, 13 sons, tous aussi différents les uns que les autres, et déjà près d'un million d'écoutes, toutes plateformes confondues, en l'espace d'une semaine, un compte Instagram qui s'appelle Bonsoir Alfred, qui grimpe de jour en jour. Bonsoir, car c'est le premier titre de son album. Belle intro d'ailleurs pour un concert, il l'a faite à la release party.
Bonsoir la famille, on se voit plus ces derniers temps. Dites-moi ce qui arrive, c'est sûrement moi, je prends plus de nouvelles. Quand je me balade seul dans la ville, je vois plus mes potes que mes parents. Et j'ai plus de meuf, c'est dégradant. Maman.
Des dates de concert arrivent, des clips, mais déjà pour moi l'assurance que c'est un mec qui va percer, un vrai coup de cœur de rentrée. Et une petite fierté quand même, Philippe, sa première apparition dans les médias aura été dans Culture Média et Europe 1, la première radio à le diffuser.
Merci beaucoup Guillaume Guénèche, ça vous a plu?
Je trouve ça intéressant, je trouve ça pas mal. J'avais un truc à dire, puis j'ai oublié en même temps.
D'accord.
Je vous écoutais. Puis
on va marquer une pause, ça va vous revenir. Culture Média continue, Margot Barallon avec elle, on va parler de séries, toujours en compagnie de Zabou Bretman. À tout de suite, merci Guillaume.
11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Blandel.
En compagnie de Zabou Bretman et de Margot Barallon qui est dans ce studio. Bonjour Margot.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Margot, vous nous parlez de cinéma et de séries et ce matin vous nous conseillez une série qui arrive demain sur OCS.
Une série qui vous emmène donc à l'Opéra de Paris et les oreilles attentives auront reconnu non pas Section d'Assaut, mais le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Ça s'appelle la série L'Opéra, tout simplement, et c'est une plongée donc dans les coulisses du Palais Garnier. Alors on y croise des petits rats bien sûr, mais aussi des danseuses étoiles comme Zoé, 35 ans. Sauf que là, bon, au début de l'histoire, Zoé est une ballerine en perte de vitesse qui boit plus de shots en soirée qu'elle ne danse de beaux rôles. Et Sébastien, le nouveau directeur de la danse qui vient d'arriver, décide donc de la pousser vers la sortie.
Et dans ta tête, ça va ?
Ouais. À part mes dates Tinder, personne ne s'est plaint de ma santé mentale.
Tu sais, moi, je connais bien le DG du Capitole à Toulouse. Il cherche un nouveau directeur de la danse.
J'ai aucune intention de quitter l'opéra, encore moins pour un bureau. Moi, je danse.
Ça fait 5 ans que t'as pas dansé. Réellement dansé, je veux dire, enfin, les blessures à répétition, les arrêts maladie, c'est plus possible maintenant.
J'ai dansé le Naharine l'année dernière, l'après-midi d'un faune il y a 2 ans.
Je te parle d'un vrai rôle, un rôle d'étoile dans un ballet classique. Enfin, je veux dire, même tes apparitions dans les créations contemporaines ne sont pas à la hauteur de ce que t'as été, de la danseuse incroyable que t'as été.
Et alors, pendant ce temps, Flora, 19 ans, elle vient tout juste d'arriver à l'opéra. Elle n'est que remplaçante, rêve de gagner sa place. Elle est douée. Mais ce n'est pas tout à fait la première chose qu'on voit chez elle, parce qu'au milieu de ces danseuses qui se ressemblent toutes, eh bien Flora est noire.
Toi Flora, si tu devais être nommée étoile, t'aimerais que ce soit sur quel rôle ?
Gisèle. Quoi ? Pourquoi tu ris ?
J'en sais rien, tu vois pas où ça pourrait être un problème ?
Non, explique-moi.
Bon Flora, ça va, tu vois où il veut en venir, l'encourage pas.
Non, mais j'aimerais comprendre, vas-y développe.
Bah, Gisèle, c'est un fantôme dans la mythologie slave. Les dernières nouvelles, les slaves, ils sont plutôt palichons, non ?
C'est vraiment con parfois.
Non, mais vous pensez tous comme moi, je suis le seul à le dire. À New York peut-être, mais à Paris, jamais on la laissera danser un rôle caucasien.
Un rôle caucasien ? Mais pourtant, ça gêne personne que des babtous comme toi dansent les maradias dans la Bayadère. Sont caucasiens en Inde ?
Mais je peux pas être le premier à te le dire.
Le premier de moins de 30 ans, si.
Voilà, vous avez donc les enjeux dramatiques. Zoé doit remonter la pente, Flora doit faire ses preuves et Sébastien, lui, veut moderniser une institution quand même assez vieille. Et tout ce beau monde se croise dans une série qui est aussi précise et rythmée qu'un ballet bien monté.
Et vous connaissant Margot, je sais qu'il doit y avoir plus dans cette série qu'une bonne histoire.
Évidemment. Alors en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce petit milieu de la danse classique va devenir le miroir de la société tout entière. Il y a cette problématique de l'inclusion et de la diversité, celle de la réforme des retraites aussi, puisque c'est une question qu'on se pose pour moderniser l'opéra. Et finalement, l'opéra est une entreprise quasi comme les autres, avec ses syndicats, sa violence managériale et ses rapports de force.
L'enjeu, c'est de faire front commun, montrer une solidarité qui dépasse les corps de métier.
Mais c'est une bonne nouvelle, qu'on reste pas chacun dans notre coin avec nos revendications.
Qui te suit ?
Ça commence à frémir de tous les côtés. Il y a eu pas mal de départs l'année dernière qui n'ont pas été remplacés. On craint des suppressions de postes, il y a aussi certaines primes qui sont sur la sellette.
À nous deux, on représente 70% des syndiqués. Le reste suivra, on ne va pas se laisser faire.
Avec la CEA, on est prêt à aller jusqu'au bout.
Et d'ailleurs, il faut se souvenir qu'en 2019, les danseurs de l'Opéra de Paris s'étaient mis en grève, justement, à cause de la réforme des retraites.
Il y a qui au casting ? Des têtes connues, Margot ?
Oui, alors c'est Raphaël Personnaz qui joue le rôle de Sébastien, le directeur de la danse, et Ariane Labède, celui de Zoé. Alors Ariane Labède, c'est une actrice que j'adore, qui nous vient du cinéma plutôt indépendant. Elle est géniale en danseuse, et je ne suis vraiment pas la seule à le dire, puisqu'elle a obtenu le prix de la meilleure interprétation féminine. C'était au festival Série Mania, dont on a déjà parlé dans Culture Média.
C'est à voir sur OCS.
Exactement.
La série redonne le titre.
L'Opéra, et ça sort demain.
Merci beaucoup Margot Barlon, Zabou, ça vous a tenté ?
J'aime bien cette histoire-là, oui. Je pense que c'est un très très bon thème.
Ouais. À la base, vous êtes fan de séries ou pas du tout ? Votre série préférée ?
Mon papa, il a créé Thierry Lafronde. Oui. Je suis tombée dans la marmite tout de suite.
À l'époque, on ne disait pas les séries, on disait des feuilletons.
Un feuilleton. Ouais. Je connaissais tout ce qui était l'anticipation, puisque moi, je suis une fan d'anticipation. Mais les séries, j'ai tout regardé, c'est-à-dire les Mystères de l'Ouest, tout. Et je suis en train d'écrire une série, là.
Ouais. Ce sera quoi ?
C'est une pour toutes. C'est chaque mousquetaire a une fille.
Et wow. Vous avez un calendrier ?
On est en train de travailler, ça y est. Et c'est... et voilà. Et il y a tellement de choses à faire sur le 17e et des choses sur l'inclusion aussi, sur la parité.
J'ai une vanne pourrie pour le calendrier. 9 mois. Vous restez avec nous, Zabou Bretman.
C'est vrai qu'elle était pourrie.
Ouais. C'est pour ça que je l'ai dit.
Mais j'ai trouvé ça très beau de le dire quand même.
J'ai assumé. Elle est pourrie. La série de Zabou qu'elle vient de nous annoncer. Vous avez un titre ou pas ?
Une pour toutes.
Une pour toutes.
Oh,
magnifique.
C'est pas mal, une pour toutes.
Merci Margot Barallon. Merci Guillaume Guédard. Restez avec nous. C'est la dernière partie de l'émission Culture Média. Continue. À tout de suite.
Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Zabou Bretman, Dorothy, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je n'ai pas donné les jours, ce serait peut-être bien de les donner une fois. C'est du mercredi au vendredi à 20h, le samedi à 20h30 et le dimanche à 16h.
Cette Dorothy Parker, elle avait des traits d'esprit absolument extraordinaires, comme raconté quand elle apprend le décès d'un président américain.
Mais non, parce que vous me spoilez tout mon spectacle.
Alors je le dis pas.
Alors on le dit pas. Et vous le saurez si vous venez.
comment s'est passé pour vous le confinement? Vous avez fait quoi? Vous avez travaillé? Vous étiez où?
J'étais chez moi, je suis restée à Paris. Je me suis dit, c'était pas bien de partir, je sais pas où. Et puis finalement, je regrette, j'aurais dû partir, je sais pas où. Et puis, je suis restée, j'ai fabriqué des poèmes, des poésies. Enfin, j'ai filmé des petites poésies, des morceaux de plein de choses différentes. Visiblement, le confinement m'embêtait moins que beaucoup de gens. Il faut dire que j'ai été une petite fille seule, une petite fille unique et un peu...
Vos parents n'étaient pas souvent là, ils étaient comédiens.
Non, ils étaient là beaucoup.
Quand même, vous vous sentiez seule?
Non, je ne me sentais pas seule, mais j'aimais être seule.
Ah, d'accord.
J'étais assez solitaire, même si j'aimais énormément être avec plein de gens, comme maintenant. Et j'aime bien le mélange, mais j'ai besoin parfois de ma solitude. Et donc, ça ne me gênait pas tellement. Ce qui fait que je me suis mise à faire plein de trucs sur Instagram. Et je sentais que les gens, ils étaient très, très heureux d'avoir quelqu'un qui supportait visiblement mieux. Et donc, pour ceux qui supportaient moins bien, je trouvais ça sympa de faire tout ça.
Et vous deviez monter une chaîne, vous l'avez faite ou pas, une chaîne YouTube?
Je ne l'ai pas fait, par
flemme. Qui devait s'appeler Cabotine.
Ouais,
qui aurait dû s'appeler.
Non, mais oui, mais il faut que je fasse, évidemment. Mais que je suis... ça m'énerve. Mais il faut que je le fasse. J'ai plein de trucs à faire dedans, ça m'énerve.
Ouais. Oh. Et vous avez aussi parlé d'une comédie musicale.
Ouais, Zazie.
Ah oui.
Oui, Zazie dans le métro. Qui sera en automne 23. Et je trouve que la comédie musicale, c'est quand même un genre que j'apprécie énormément. Il faut que ça soit de qualité, bien entendu, mais comme tout.
Non, mais là, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire votre chaîne YouTube, la comédie musicale. Faut pas
mais
vous
là,
en
si,
vouloir
ça dépend de question. Bah, vous parliez de calendrier tout à l'heure. C'est une question de calendrier. Ça se gère, ça se met en place. Et Zazie s'est mis en place pour fin 23.
Et vous n'avez pas arrêté de travailler pendant le confinement. J'ai même retrouvé un article d'un journal de La Réunion, c'était en février dernier, où vous étiez allé jouer votre pièce « Logique imperturbable du fou ». Dit comme ça, on comprend, mais en fait, c'est incompréhensible parce que c'est en un seul mot sur l'affiche, on ne comprend rien du tout. Pièce hors norme, il y a des textes pris de partout. Ça va, je ne l'ai pas vu la pièce, je vais dire ce que j'ai appris. Ça va de l'éloge de la folie d'Erasme à une nouvelle de Tchekhov, un petit bout de la lettre de Shakespeare, un peu de Lewis Carroll.
C'est en fait une mise en scène de plusieurs textes de documentaires que jouent quatre jeunes. Des documentaires qui sont mis, comme j'avais fait avec Depardon, c'est exactement de la même manière. Et donc, c'est un montage, un collage. Donc, le titre est également un collage, la logique imperturbable du fou en un seul mot. C'est un collage de toutes ces sensations de folie, parfois dans l'institution, parfois hors institution. Et il en ressortait visiblement quelque chose à la fois très drôle, atrocement drôle, et parfois extrêmement bouleversant.
Avec des gens qui rient et des gens qui pleurent.
Ouais. Mais ça, j'aime bien quand il y a un mélange comme ça. Et donc, on a joué ça à La Réunion en plein confinement. C'est complètement fou, cette histoire. Complètement dingue. On s'est retrouvés au bord de la... Ben parce qu'on était les derniers. Je pense que derrière nous, c'est-à-dire derrière quand on a fermé l'avion, je pense qu'on a été les derniers à partir, parce qu'après, ça a été interdit. On a été les derniers à partir artistes. Et on a été les derniers à jouer. Juste derrière, il y a eu un à nouveau couvre-feu, confinement. C'est-à-dire que c'est insensé, quoi. On s'est retrouvés au bord de l'eau. C'était complètement dingue. Et à jouer dans des salles pleines, sans distanciation, c'était un cadeau immense, quoi. Un cadeau immense. Et je vais y retourner à La Réunion pour jouer Dorothy. Parce qu'on s'est fait... on s'est fait copains. Mais alors maintenant, en ce moment-là, les pauvres, ils sont... C'est un petit peu dur. Oh,
j'adore. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu cette expression « on s'est fait copains ». J'adore.
J'ai dit on s'est fait copains.
Ouais, j'adore. J'adore.
On s'est fait copains. On a frotté la truffe. Voilà. Oh non, c'est pas vrai. En tout bien tout honneur.
Marc-Antoine Lebret, pas facile d'enchaîner. Bonjour. C'est l'heure des stories de Lebret où des personnalités vont s'adresser à notre invité aujourd'hui, Zabou Bretman, à commencer par le spécialiste de l'histoire, Franck Ferrand.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous narrer l'histoire de notre invité. Zabou tient le nom Bretman de son arrière-arrière-arrière-grand-père qui était de Bretagne, car Bretman n'est autre que la contraction de Bresman, le super-héros breton qui a le pouvoir de résister à des liquides de plus de 90 degrés. Dans les années 80, Zabou joue dans la comédie musicale de Dorothée, ce qui en fait une comédienne très proche des enfants, mais moins proche quand même que Richard Berry.
Oh.
Bon, ouais, bon, un peu d'humour. En 2003, elle décroche deux Césars et en 2004 et 2009, elle gagne deux Molières alors que César et Molière n'en ont jamais gagné un seul, c'est gros bolos.
Laurent Ruquier, passez-vous voir, Zabou.
Bonjour Philippe. Bonjour Zabou. La seule actrice qui, quand elle se présente, paraît toujours énervée. Bah oui, bonjour, je suis Zabou. Alors Zabou, vous revenez avec Dorothy. Un seul en scène, vous incarnez Dorothy Parker, une actrice américaine méconnue en France, qui est morte seule dans sa chambre d'hôtel avec son chien et une bouteille d'alcool. Bah, une sorte de Loana qui a réussi. Excusez-moi de vous couper, mon cher Philippe, c'est Antoine de Caunes. Alors, je sais, j'étais invité juste avant Zabou, mais j'avais envie de rester un peu encore, me retrouver dans une émission avec Pandel. Ça me rappelle la belle époque de Nulle part ailleurs. Époque où on était plus libre dans les studios d'enregistrement. Époque où on pouvait sortir une bombe de chantilly et la poser sur la table. Époque où on pouvait tenir des petits Suisses dans la main, droite, bien sûr. Époque où on pouvait tenir... Eh bien, des Kiri dans la main gauche, comme cela.
Oh non, non, non.
Époque où on pouvait faire comprendre d'un simple regard au présentateur qu'il allait en chier. Mais cette époque est terminée et je vais laisser l'animateur tranquille. Mais en l'honneur de l'esprit canal, je vais me tourner vers de nouveaux visages. De la station, celle qu'on appelle les cumulards. Je veux bien sûr parler de Marc-Antoine Lebret, qui est également sur RFM. Je vais donc me petit suicider.
Oh non !
En direct. Je vais me faire harakiri. Vas-y. Et je me finis à la chantilly. Alors, mon cher Philippe, qu'est-ce qu'il aurait dit, Gildas ?
Oh, comme tu vas. Dis donc, Marc-Antoine. Non.
Eh bien, merci. Bonne journée.
Il vaut mieux t'avoir en photo qu'en pension. Hein.
C'est dégoûtant, il y en a plein sur le micro.
Merci beaucoup.
Marc-Antoine Lebret, regardez ça. Oui, bah, avec Julien Vignali, oui, qui est la rose de bombe.
Non, rajoutez pas,
sur Europe1.fr, il y a baston de chantilly dans le studio.
Je vais en foutre partout.
Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec la journaliste Ruth Elkrief qui va parler de son nouveau magazine, le 2022 sur LCI. Puis il y aura le débat du premier tour qui lui arrive. Le comédien Pierre Ninet pour le film Boîte Noire, dans lequel il incarne un agent de l'aviation civile. Merci beaucoup, Zabou Bretman.
Oh, il est trop fort.
D'avoir été avec nous.
Vous êtes trop fort.
Juste après le flash, merci pour ces compliments. Julia Vignali, pleine de chantilly. Mélanie Gomez, bonjour, bien fait pour vous.
Bonjour.
C'est quoi le programme du jour?
Alors, on va tenter de vous faire arrêter de fumer, si vous êtes d'accord, bien entendu. Voilà. On va vous donner plein de conseils.
Si ça vous donne des sueurs d'arrêter de fumer, on parlera aussi de transpiration excessive. Donc, que de l'utile, hein, que de l'agréable.
Vraiment, ça va très bien ensemble. Merci encore, Zabou. Merci Marc-Antoine. Merci.